Voilà, bonsoir à tous. Il est plus que temps de commencer. Bienvenue pour cette 19e soirée d'éthique publique, la première de cette année universitaire du Centre Sèvres des facultés jésuites de Paris. Je suis heureux de retrouver beaucoup d'entre vous, d'accueillir aussi des nouveaux venus pour ce rendez-vous habituel, le premier mardi de chaque mois, ce lieu de réflexion et de débat. Ces soirées se veulent un peu comme des fenêtres sur des réalités sociales, politiques, professionnelles, internationales, qui ne nous intéressent peut-être pas toutes au même niveau, mais qui pourtant nous concernent tous. C'est en effet pour nous un enjeu qui nous tient à cœur de prendre les moyens pour nous tenir autant que cela est possible, informer des questions qui traversent nos sociétés, notre monde, nos vies. Important d'avoir des espaces de dialogue simples, sans prétention, mais où une parole personnelle, libre et respectueuse d'autrui est possible. Et l'objectif est bien d'essayer de nous donner les uns aux autres quelques éléments de compréhension et d'analyse et de repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Ce n'est donc pas une conférence académique exhaustive sur un sujet, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion et notre agir, et le point de départ, comme les deux dernières années, est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles et à d'autres réflexions. Le programme des soirées d'éthique publique n'est pas volontairement fixé une fois pour toutes, de manière définitive pour toute l'année, pour être notamment à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui pose question dans l'actualité des jours, mais aussi au-delà, je dirais, de la rumeur des vagues de surface. Le mois prochain, nous devrions nous arrêter sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient, à l'occasion du synode qui va s'ouvrir dans quelques jours à Rome sur les églises, la situation des églises dans cette région. Tout au long de l'année, eh bien, les sujets de réflexion ne manquent pas et on essaiera ainsi de nous arrêter sur, c'était déjà un projet l'an dernier, mais on va y arriver, sur l'état de la justice dans notre pays, sur nos modes de vie, de consommation, nos attentes aussi face au fonctionnement de la politique dans notre pays. Et puis on essaiera aussi d'aborder la situation complexe d'Afghanistan, entre autres sujets. Je rappelle qu'il est désormais possible de s'inscrire à l'accueil et au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre. De même, il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Voilà, je pense aussi que notre assistance peut encore voir son nombre grandir, donc n'hésitez pas à nous donner de bonnes idées pour faire connaître cette proposition des soirées d'éthique publique, à nous transmettre aussi éventuellement des idées de thèmes, même s'il n'est pas possible de répondre à toutes les demandes. Et puis surtout, j'ai envie de dire, continuez à faire connaître ce lieu autour de vous parce que ces soirées sont d'abord les vôtres. Alors s'il est un domaine qui est bien important pour notre société et pour son avenir, c'est celui de l'éducation, sujet sensible car chacun y va de ses conceptions, de ses appréciations, sujet délicat car il touche précisément des conceptions parfois différentes de l'acte éducatif et surtout de l'organisation du système scolaire. Alors il nous a paru important, alors que la rentrée vient de s'achever, de nous interroger. Notre système éducatif et scolaire dans notre pays est-il adapté aux enjeux de l'avenir? Rythme scolaire, lutte contre l'illettrisme, socle commun de connaissances, réforme des filières, renforcement du soutien scolaire, amélioration de l'orientation, adaptation des enseignements, autonomie des établissements, révision du statut et des missions des enseignants, évaluation par compétences, etc., etc. Les idées et les chantiers ouverts au long des années et des différents ministres de l'Éducation nationale sont multiples, nous le savons. Les réformes et les projets de réforme se succèdent depuis 40 ans. La dernière en date d'importance, je crois, je parle sous ton contrôle, est sans doute la loi Fillon de 2005 sur l'école, sans que l'opinion française ne soit vraiment totalement convaincue de leur pertinence et de leur efficacité. Alors certes, la totalité d'une classe d'âge entre aujourd'hui en sixième, ce qui n'était le cas que d'un élève sur deux il y a un demi-siècle. Certes encore, les deux tiers des jeunes Français sont désormais bacheliers, contre 11% en 1960. Cette ouverture donc au plus grand nombre de l'enseignement secondaire est indéniable. Pourtant, nous savons que les problèmes sont importants, que le système est souvent miné par l'échec scolaire, par les inégalités sociales et culturelles, sur fond de malaise croissant chez les enseignants et de violence ou d'incivilité banalisée chez les élèves. Dans son rapport annuel qui a été remis il y a quelques jours au président de la République, le Haut Conseil de l'Éducation montrait du doigt le collège comme le maillon faible du système scolaire de notre pays, un message qui n'a rien de nouveau véritablement, puisque le constat d'une crise du collège est dressé déjà depuis de nombreuses années et qu'il le fut plus encore au printemps à travers le récent rapport de la Cour des comptes qui pointait les statistiques dramatiques sur les difficultés en français et en mathématiques, puisque 20% des collégiens de 15 ans ne maîtrisent pas les connaissances de base dans ces deux domaines et que sur 30 pays de l'OCDE, la France occupe le 17e rang pour la compréhension de l'écrit et la culture mathématique et le 19e rang pour la culture scientifique. Performance peu glorieuse, d'autant que le projet démocratique d'offrir à tous les jeunes les mêmes chances d'accès au savoir et de réussite scolaire, eh bien, semble également en panne. Alors mon constat peut paraître bien noir ce soir pour démarrer notre soirée, et sûrement nos invités vont s'employer avec raison à mettre en avant les forces, les richesses et les potentialités de notre système scolaire français. Mais il convient quand même de se demander, en reprenant le titre du rapport que le député Frédéric Reiss vient de rendre il y a quelques jours au Premier ministre, quelle direction pour l'école du 21e siècle. Pour nous aider à entrer dans cette réflexion et ouvrir au débat, je suis très heureux d'accueillir nos deux invités, que je remercie beaucoup parce qu'ils ont accepté de venir malgré un emploi du temps particulièrement chargé. D'abord, Christiane Contouri, qui appartient à une communauté de femmes consacrées dans la vie apostolique au service de l'éducation des jeunes, la communauté Saint-François-de-Xavier, enseignante, responsable d'animation pédagogique, successivement en Afrique et en France. Vous exercez actuellement à l'école Charles Péguy de Paris, dans le 11e, qui forme, je crois, des élèves du CP jusqu'au BTS, et vous êtes notamment, dans cet établissement, directrice des études. À partir de votre expérience, de votre connaissance du terrain, vous réfléchissez depuis des années aux enjeux éducatifs pour la jeunesse d'aujourd'hui. Vous avez notamment publié en 2004 « Enseigner avec bonheur, pédagogie et spiritualité » aux éditions Parole et Silence. Merci beaucoup de votre présence parmi nous ce soir. Avec nous également Bernard Gors, observateur attentif depuis des années de l'école et du monde scolaire. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix. Vous venez d'intégrer depuis peu, je crois, le service politique du journal, mais toutes ces dernières années, eh bien, vous avez suivi au sein du service société toutes ces questions qui nous intéressent ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vais leur laisser la parole pour 15-20 minutes environ chacun, comme nous en avons l'habitude, avant d'engager le débat tous ensemble. Et c'est par vous, Bernard Gors, que nous allons commencer, en vous demandant, eh bien, de votre point de vue d'observation de journaliste, quelles sont les grandes tensions, les grandes questions qui, selon vous, travaillent le monde scolaire, aussi bien d'ailleurs public que privé aujourd'hui, et peut-être, en faisant écho au débat actuel de ces dernières années, eh bien, notre système scolaire est-il adapté aux enjeux d'aujourd'hui? Finalement, quelles évolutions sembleraient peut-être bonnes à opérer? Somme toute, des questions faciles pour commencer la soirée. Je vous laisse la parole.
Merci et bonsoir à tous. Alors, Comme vous venez de le dire, mon point de vue sera un point de vue de journaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas un expert, ni un professionnel, je ne parlerai pas en tant que parent, même si j'ai des enfants à divers niveaux du système scolaire, mais donc de ce poste d'observation un peu privilégié, original, qui est celui du journaliste, qui est en contact permanent, quotidien, avec des sources extrêmement diverses qui vont des syndicats, des professionnels, des experts, des rapporteurs, des gens du ministère. C'est tout ça qui nous revient un peu quand on est journaliste, et c'est assez titre-là qu'on peut avoir non pas une opinion, non pas un verdict et un diagnostic sur le système éducatif, mais simplement ce regard qui peut permettre d'alimenter un débat qui est toujours en France extrêmement passionné, passionnel, même sur ces questions d'éducation. Tout d'abord, moi, quand j'ai pris mes fonctions éducation fin des années 90, début des années 2000, je ne sais plus exactement, mais il se passait quelque chose. On sentait qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer dans le système éducatif. C'était sans doute une prise de conscience que justement ce qu'on appelle ce système éducatif aujourd'hui avait un problème. En tant que système, un système, c'est quelque chose où les éléments qui forment un tout sont normalement articulés. Or là, on avait le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'était plus articulé. Donc c'est pas simplement en changeant une pièce du système ni en mettant un peu d'huile dans les rouages qu'on allait améliorer les choses, mais sans doute en se questionnant, en reprenant ce système en tant que tel. Qu'est-ce qui a permis cette prise de conscience? Sans doute plusieurs éléments. D'abord, et vous l'avez évoqué, il y a eu cette espèce d'électrochoc qui a constitué les études internationales. Ça, c'était nouveau au début des années 2000. C'est ces études qui sortaient, qui comparaient les performances des jeunes Français à ceux des jeunes Japonais, Anglais, Américains. Et ça a été au début très mal vécu. C'est-à-dire, on s'est demandé ce que valaient ces études, est-ce qu'elles étaient pertinentes ou non. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu les études en première moisson de données en 2000, puis 2003, puis 2006, puis 2009. Et l'éducation nationale a bien dû intégrer ces résultats sur lesquels je ne vais pas revenir. Vous en avez parlé, ces résultats qui n'étaient pas très bons, qui montraient que la France, malgré les dépenses importantes consacrées à l'éducation, au système éducatif, obtenait des résultats assez médiocres, un 17e, si on peut parler d'un classement, mais enfin 17e sur les 30 pays recensés par PISA. Ces enquêtes internationales ont représenté un premier choc. Il y en a eu un deuxième dans la foulée. C'était un certain nombre d'études qui étaient produites par le système français lui-même et qui étaient des études assez alarmantes sur un niveau des élèves qui n'ont pas baissé, mais parce que ça, la polémique est vieille comme l'école, est-ce que le niveau monte, est-ce que le niveau baisse, mais des performances statistiques qui étaient plus au rendez-vous. Alors, on a évoqué ce nombre d'élèves qui doivent arriver au baccalauréat. Je vais essayer de retrouver mes chiffres, mais pour une génération, oui, c'est 54%. 54% en 95 d'élèves qui parvenaient à décrocher le bac général ou technologique en 1995. En 2008, ce n'était plus que 51,2%. Donc c'était pas des discussions uniquement théoriques sur le niveau monte ou le niveau baisse. Il y a des outils statistiques qui ont mesuré qu'en termes de performance, le système ne parvenait plus à répondre à l'attente très forte sur l'élévation globale du niveau de connaissance. Il y a eu ces dernières années aussi un certain nombre de chiffres qui ont marqué les esprits. Je pense à quand la commission Tello a travaillé sur le grand débat sur l'école. Il y a ce chiffre qui a beaucoup circulé et qui s'est, je crois, dont les Français ont pris conscience, c'est ce chiffre de 150 000 élèves qui sortent du système sans diplôme ou sans qualification. C'est un chiffre dont se sont emparés tous les politiques, emparés au sens noble du terme, pas forcément au sens d'instrumentalisation, de s'en sont emparés aussi les médias, et je crois que l'idée est quand même bien répandue maintenant dans l'opinion publique qu'il y a un problème français avec son éducation, et notamment un problème à faire réussir tous les élèves et à s'occuper de ceux notamment qui décrochent le plus. Alors les chiffres, il y en a beaucoup, tous les ans qui sortent, il y en a encore eu dernièrement avec ce rapport que du Haut Conseil à l'éducation rendu public en fin de semaine dernière que vous évoquiez, sur un cinquième des élèves qui sortiraient du collège avec de graves lacunes de lecture. On peut toujours discuter de ces chiffres, mais tout de même, on tourne toujours à peu près autour de la même proportion. C'est-à-dire entre 15 et 20% des élèves qui, depuis l'école jusqu'à la sortie de la scolarité obligatoire, ne parviennent pas au minimum, ou en tout cas à ce qu'on pourrait espérer que l'école apporte à tous les élèves. Donc il y a ce 15-20% d'élèves qui sont en échec, et ça c'est le gros problème, le gros défi de l'école qu'elle doit traiter dans les années à venir si on veut remonter la pente. Alors, quels sont les défis du système éducatif? Répondre à cette question, bien sûr, il faudrait des heures, peut-être, pour y arriver. Je vais simplement en évoquer quelques-uns. Dans un premier temps, les défis internes, et dans un deuxième temps, les défis qui sont extérieurs à l'école, parce que l'école n'est pas isolée, elle plane pas dans un monde abstrait, elle est dans le monde réel d'aujourd'hui. Sur les défis internes, le premier défi, c'est celui de l'organisation du système, bien entendu. Alors, le tableau n'est pas tout noir, contrairement à tout ce qu'on dit sur le mammouth, il y a aussi des bons résultats. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions scolaires, on m'avait dit, tu vas voir les rentrées scolaires, c'est à chaque fois épouvantable, il y a des manifestations, des écoles avec des piquets de grève parce qu'il manque des profs ici, il manque des profs là. Or, ce que moi j'ai vu depuis 10 ans, enfin entre 2000 et 2010, c'est globalement, je dis bien globalement, hein, faut pas faire des généralités, mais que le système s'est plutôt amélioré et qu'on arrive aujourd'hui, grâce à la gestion informatique, grâce à une administration qui est peut-être aussi un peu meilleure qu'elle l'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, arrive mieux à mettre, si on peut dire, un élève ou un professeur devant chaque élève. Donc le tableau n'est pas tout noir, mais une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on n'a rien dit, et il faut évoquer cet énorme défi que représente pour l'école sa capacité à se réformer et par rapport à une extrême rigidité. Et ça, c'est sans doute le défi numéro un de l'école. Le rapport, là encore une fois, de la commission Tello le disait bien. Le système éducatif doit passer du gouvernement par les règles au pilotage par les objectifs et les résultats. L'État doit à la fois affirmer plus nettement des priorités et donner davantage de responsabilités aux acteurs locaux pour définir les modalités de leur mise en œuvre. Alors, ça, c'est sans doute une des difficultés culturelles les plus grandes que rencontre l'école, et on le voit souvent dans les débats politiques. On se souvient de cette polémique un peu quand même surréaliste qu'on avait vue sous un ministre, Gilles de Robien, qui était il y a quelques années en poste et qui a déclenché toute une polémique à n'en plus finir sur savoir s'il fallait enseigner la lecture aux enfants à l'école selon la méthode du béaba ou selon la méthode... Enfin, bon, là, on marche quand même un peu sur la tête de voir le ministre rentrer dans des débats qui ne sont des vrais débats, mais qui devraient sans doute pas avoir lieu d'être à ce niveau-là. À l'État de fixer les objectifs, ce qu'on attend de l'école, à l'école de trouver les moyens et de s'organiser pour y arriver. La Cour des comptes, qui régulièrement, pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans, remet des rapports assez de fond, assez sérieux, assez sans concession sur l'école, a insisté ces dernières années avec beaucoup de force, et je pense que c'est sans doute un des enjeux dans les années qui viennent, sur la nécessité de donner plus d'autonomie aux établissements. Chaque équipe pédagogique pourrait déterminer des modalités de répartition des moyens pédagogiques qui sont attribués aux établissements. Elle va même jusqu'à dire qu'il faudrait que 10% de la dotation à chaque établissement soit à la libre disposition des écoles pour qu'elles se déterminent ses priorités et les moyens d'atteindre les objectifs qui sont fixés par l'État. C'est un enjeu important. De ce point de vue-là, on peut dire que l'enseignement public, sans doute officiellement ou officieusement, quand on discute comme ça avec les cadres de l'éducation nationale, regarde souvent avec envie du côté de l'enseignement privé sous contrat, parce que les établissements privés sous contrat, c'est quand même leur force, même si elles ont des faiblesses, c'est cette capacité à définir un projet, à s'organiser, à se fixer des priorités et à avancer. Chose que, bien entendu, c'est beaucoup moins faire, c'est moins dans les mœurs, dans la culture, dans les gènes de l'école publique. Donc premier défi, celui de l'organisation. Là encore, je vais un petit peu vite et je survole un peu ces questions-là. Le deuxième, c'est celui de la massification. Alors sans doute la grande victoire, ou enfin en tout cas le grand chantier des décennies passées, ça a été d'amener le maximum d'élèves à la fin d'une scolarité obligatoire placée à 16 ans. Hein. Le collège moderne date de 63, le collège unique de Giscard en 75. Après ça, on a supprimé la barrière des filières en fin de cinquième. Petit à petit, on a réussi à amener toute une génération jusqu'à la fin du collège. Et il y a eu l'objectif aussi en 89 de 80% d'une classe d'âge au bac. Or, cette massification réussie reste aujourd'hui à transformer l'essai et à savoir résoudre une question qu'on peut résumer, bien qu'on pourrait la poser d'autre façon, mais que moi je résume un peu comme ça. Comment réussir aujourd'hui à la fois l'efficacité pédagogique et deuxièmement l'équité sociale, c'est-à-dire comment à la fois avoir une élite, puisqu'on en aura besoin dans les années qui viennent, amener les élèves à un très haut niveau de performance et en même temps être juste socialement. Ça, c'est la grande question, je dirais la question à 1000 francs ou à 1000 euros que doit résoudre l'école, contre laquelle elle bute depuis des années, et pour l'instant on n'a pas encore trouvé la clé de cette question. Cette question pose la question de la gestion dans les classes de ce qu'on appelle l'hétérogénéité des élèves, bien sûr, mais ça pose aussi l'autre question, c'est celle du contenu. Qu'est-ce qu'on veut enseigner, qu'est-ce qu'on veut apporter à tous les élèves. De ce point de vue, il y a eu un retard historique de prix, certainement, dans le système éducatif. Quand on a défini quand on a créé le collège moderne, quand on a créé après ça le collège unique, Giscard le disait à l'époque, cette réforme devait s'accompagner d'une autre réforme. C'était la mise en place d'un système unique de la mise en place d'un système unique de collège pour tous devra s'accompagner sur le plan des programmes de la définition d'un savoir commun variable avec le temps. Or, ce grand travail de définition d'un savoir commun n'a jamais été fait pendant des décennies, n'a pas pu être fait, et c'est pas les rapports qui ont manqué ni les commissions pour le demander, mais ce travail, pour des questions de blocage corporatiste ou de manque de consensus à l'intérieur du monde éducatif, n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu arriver à définir ce qu'on voulait que le collège apporte à toute une génération, de même façon qu'on avait réussi au XIXe siècle à dire ce que l'école devait apporter à toutes les générations de Français. Cette définition, bien entendu, étant évolutive, on ne va pas une fois pour toutes le couler dans le bronze, mais il faut pouvoir définir ce qu'on veut apporter à tous ces élèves. Et ça n'a pas été fait. Ça a pu commencer à se faire. Il y a un vrai changement qui s'est fait en 2005, après le grand débat sur l'école et le travail de la commission Tello, puisqu'enfin on a commencé à définir, à raisonner à partir d'un socle commun. Alors, tout ça est encore bien neuf. 2005, la loi Fillon, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais le récent rapport sur le collège disait que pour l'instant, on voit bien que on a réussi à définir un socle commun, mais que l'institution s'est peu encore emparée de ce socle commun. L'œil des enseignants est encore rivé sur les programmes scolaires. On voit où faut aller avec les programmes. Il faut amener tous les élèves à être bons et à boucler son programme, mais on a l'impression qu'il faut gérer deux choses à la fois. C'est d'une part arriver au bout du programme et de l'autre arriver à donner quand même ce socle commun. Et là, il y a une espèce de double curseur à tenir. Ça hésite. L'éducation nationale a sans doute beaucoup encore à faire dans les années qui viennent pour arriver à faire les deux à la fois. Et ça, ce sera sans doute un des défis sur ce socle commun, non pas simplement de le définir, mais de le faire passer dans la pratique. Autre défi interne primordial, c'est celui de la définition du métier d'enseignement. L'idée, je crois, est aujourd'hui passée dans les esprits quand on discute avec les cadres de l'éducation nationale, quand on discute avec les enseignants, que l'on ne peut plus enseigner comme on le faisait il y a 50 ans. D'abord, rapport après rapport, l'idée avance, hein, que ce soit les rapports Fauroux, les rapports Tello, les rapports de la Cour des comptes, enfin, il y en a eu vraiment beaucoup pour insister là-dessus, qu'il faudrait redéfinir le service d'enseignement en y incluant d'autres missions, celui du suivi individualisé des élèves, l'aide à la méthodologie, l'aide à l'orientation. Certains experts vont plus loin, même ils proposent, le Haut Conseil de l'école vient de le redire dans son rapport, propose un allongement de la présence, de la durée de présence des enseignants dans les établissements. Tout ça, c'est des questions, bien sûr, extrêmement sensibles, ultra sensibles, et qui sont des questions difficiles à négocier avec notamment les syndicats. Les ministres ne s'y attaquent pas de front. Pourtant, on voit qu'on commence quand même à essayer de bouger les lignes. En primaire, on a mis en place le suivi individualisé de l'élève avec les 2 heures de soutien hebdomadaire. Au lycée, ça y est, ça s'est fait depuis la rentrée. En principe, là encore, on va voir comment ça va se passer dans les faits, mais les élèves de seconde, désormais, disposent dans leur programme de 2 heures de suivi plus individualisé. Et chose intéressante, les établissements pour les lycées, pour une fois, on a payé... pas dit aux établissements, voilà le dispositif, il va fonctionner comme ça et vous allez tous faire pareil. On a laissé l'autonomie aux établissements pour s'organiser et pour gérer ces 2 heures par semaine pour les élèves. Donc les établissements, les lycées sont normalement cette année en train de tester différents dispositifs pour mettre en place de l'aide individualisée, de l'aide à l'orientation. Alors ceux qu'on avait interrogés récemment dans un article disaient, expliquer de quelle façon ils vont procéder. Certains proposent même de faire de l'aide à la gestion mentale pour la concentration. D'autres vont plus travailler sur l'aide aux élèves quand ils ont des lacunes dans telle ou telle manière. On va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais on voit que les curseurs commencent à bouger de ce point de vue-là. Voilà, très brièvement encore pour les défis internes. Les défis externes, je vais en souligner quelques-uns en allant très vite. Le premier, bien sûr, c'est celui qui est un peu qui obsède l'éducation nationale, c'est celui de la ghettoïsation urbaine. Ce n'est pas l'école qui peut à elle seule résoudre ce problème-là, mais on voit bien quand on a travaillé un peu ces questions que les questions sont dans toutes les têtes. Les enseignants, quand ils sont dans des établissements qui concentrent tous les problèmes sociaux, tous les problèmes de diversité culturelle, se demandent concrètement comment ils peuvent faire. Enfin, c'est vraiment tous les établissements ne sont pas comme ça, mais les établissements qui sont confrontés à la ghettoisation, qui s'est sans doute renforcée ces dernières décennies, sont vraiment des enseignants qui se posent des questions de fond sur le sens de l'école et de leur métier. Et moi-même, pour avoir été une fois ou l'autre dans ces établissements, c'est toujours assez prenant de voir une jeune enseignante qui arrive de Bretagne, qui débarque dans son établissement, parce que bien sûr, on est nommé dans ces établissements quand on n'a pas trop de points, et on la voit ressortir de classe en pleurs en se disant mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, elle découvre un monde dont elle n'avait absolument pas conscience, et en même temps, on rencontre, quand on est journaliste, dans ces établissements, des professionnels absolument époustouflants, remarquables, qui font un travail au quotidien fabuleux pour arriver avec ces jeunes-là à faire quand même un travail éducatif au sens fort du terme. Pour ces questions de ghettoisation et ce que peut faire l'école, bon, il y a des choses qui ont été faites. L'un des défis, c'était notamment celle des moyens. On sait qu'avec la politique des ZEP qui date des années 80 sous Savary, on a au fur et à mesure des années distribué beaucoup de moyens à beaucoup d'établissements. Donc l'un des défis, c'est d'arriver à redonner, à recentrer les moyens sur un nombre plus restreint d'établissements, mais qui soient vraiment les établissements les plus en difficulté. Je crois que il y a quelques années, on disait qu'il y avait à peu près 20% des élèves qui étaient dans un dispositif ZEP ou REP ou d'éducation prioritaire. Donc ce qu'il faut, c'est sans doute arriver à recentrer un peu cette aide. C'est ce qui est fait, ce qu'essayent de faire les pouvoirs publics en classifiant, en mettant de nouveaux labels. Alors maintenant, c'est les collèges ou lycées ambition réussite. Donc c'est vraiment pour les établissements les plus en difficulté. On va essayer là de mettre le maximum. L'autre initiative qui a été entreprise ces dernières années, ça a été de desserrer un peu la carte scolaire en disant c'est pas juste, il y a des élèves qui sont des élèves méritants, mais qui sont prisonniers de la carte scolaire, qui se retrouvent dans les établissements les plus difficiles, et il faudrait leur donner la possibilité à ces élèves-là de déroger à la carte scolaire. Alors ça a été fait, et pour l'instant les résultats, d'après ce que je crois en savoir des premières études, sont quand même pas très satisfaisant, parce que cette politique-là ne fait en fait que renforcer un peu plus la ghettoïsation. Donc au début, ça partait d'une bonne intention pour ne pas enfermer certains élèves, mais enfin, de ce que je crois savoir, les premiers résultats de cet allègement de la carte scolaire est pas quand même très très brillant. Un des défis, à mon avis, de fond pour aussi aborder cette question de la ghettoïsation, c'est la formation des enseignants. On continue de recruter et de former les enseignants sur le même profil. Et qu'on aille enseigner dans un bon lycée de centre-ville ou dans un lycée ghetto très très difficile, on considère que c'est le même métier, et les enseignants reçoivent peu ou prou la même formation. Sans doute que là il y aurait un défi à relever. C'est loin d'être simple, c'est loin d'être fait, parce que je suis pas sûr qu'on en prenne la direction, mais sans doute pour profiler, pour recruter autrement, pour former autrement des professionnels qui, de fait, me semble-t-il, ne font pas le même métier. Autre défi extérieur qui se pose à l'école, c'est celui de la fin des institutions et de la crise de l'autorité. Alors là, c'est pas un problème propre à l'école. Beaucoup de sociologues se sont penchés sur la question, notamment François Dubé, qui a écrit des ouvrages passionnants là-dessus, sur le déclin des institutions, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit les institutions politiques. Ou les institutions religieuses, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, dans un monde marqué plus par l'individualisme, un déclin des institutions. Or, le problème pour l'école, c'est que autrefois l'autorité était adossée à cette institution, et qu'aujourd'hui l'autorité ne l'est plus, adossée donc à l'institution scolaire. Aujourd'hui, le malaise enseignant s'explique en partie par le fait qu'ils sont renvoyés de plus en plus à leur charisme personnel, à leur capacité à diriger une classe, à se faire respecter des élèves, et ce n'est plus l'institution scolaire qui endosse cette autorité. D'où les problèmes d'incivilité, les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Quand on est journaliste, on voit sans arrêt revenir ces problèmes aujourd'hui de l'autorité dans la classe. On voit aujourd'hui monter de façon très forte un débat, aujourd'hui, ça fait déjà un moment, dans le monde scolaire, un débat sur ces questions de l'autorité et de l'institution. Ce débat, il dépasse largement le clivage droite-gauche classique. Pour faire très très simple, il y a ceux qui disent il faut réinstitutionnaliser l'école. On lui en demande trop. On en demande trop à l'école. L'école n'est pas un lieu éducatif qui peut tout faire. Il y a certainement une irresponsabilité de la société vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des familles, qui à la fois demande de l'autorité, qui demande tout à l'école, et qui en même temps demande un traitement de plus en plus individualisé au cas par cas de leurs enfants. Donc on demande tout et n'importe quoi à l'école. Ce n'est pas possible. Il faut d'un certain côté la réinstitutionnaliser. Alors on le voit à travers des choses très diverses, que ce soit, je dirais par exemple, la loi sur le voile à l'école, le renforcement des règlements intérieurs dans les établissements, et puis toute une frange des penseurs, des essayistes qui tirent à boulet rouge sur l'école héritée des années 70, et qui disent, c'est encore une fois ces essayistes, ces auteurs, qui ne sont pas forcément des gens de droite, mais qui viennent parfois de la gauche, qui disent il faut absolument aujourd'hui redonner donc de l'autorité au savoir et dans les classes. Vis-à-vis de ce courant s'oppose un autre courant qui dit au contraire on ne s'en sortira pas en se réfugiant dans une citadelle. On pourrait, pour faire très simple, dire que c'est un courant pédagogique, mais je ne crois pas que ce terme suffise à délimiter les différents protagonistes. On pourrait dire le courant pédagogiste, le courant Mérieux. Ils disent aujourd'hui il faut reconcevoir l'éducation sur une autre base. L'école française est encore marquée par une culture du savoir. Les élèves passent toute leur journée dans les classes assis à apprendre des savoirs scolaires. Il faut aujourd'hui passer à une autre école qui soit une école de l'éducation au sens large. D'autres pays le font. C'est pas uniquement une lubie de quelques pédagogistes 68ards. C'est cette école uniquement basée les savoirs et sur l'institution ne tient plus par rapport aux enjeux éducatifs modernes. Ce débat-là, il existe, il est très nourri, il est loin d'être fini, et on le voit, quand on est journaliste, on le voit monter de rentrée en rentrée scolaire. Et je terminerai enfin par le dernier défi, c'est celui de la disqualification des savoirs dans le monde d'aujourd'hui. La place des savoirs, la connaissance, les connaissances scolaires ont été totalement transformées. À la fin du XIXe siècle, un écolier passait 1300 heures en classe. 100 ans plus tard, un écolier passe 900 heures en classe. Bien sûr, il faut pas être dupe de encore une fois des chiffres. On passe moins de temps en classe, mais aussi on passe peut-être mieux de temps en classe. Autrefois, les petits paysans, quand il y avait les moissons, ils allaient pas à l'école. Donc, s'il y avait un nombre d'horaires théoriques, ça veut pas dire que tous les élèves étaient forcément devant les maîtres. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a eu une réduction et surtout un émiettement du temps scolaire. Et cet émiettement du temps scolaire s'est produit alors même qu'on voit une explosion de l'environnement culturel, le monde des médias, le monde de la communication, le monde de l'image, le monde de la télévision, d'Internet a explosé ces dernières années, et tout cela n'a fait que marginaliser un peu plus ce monde de la connaissance. Alors le problème se pose certainement aussi à un point de vue philosophique, et là je voudrais juste terminer en citant donc une interview que j'avais fait il y a quelques temps en novembre 2008 de Marcel Gaucher, qui avait co-écrit un livre intéressant justement sur les conditions de l'éducation. Et pour lui, aujourd'hui, le défi numéro un de l'école, c'est celui de la disqualification des savoirs. Alors je le cite, il dit « c'est le point le plus fondamental de la crise éducative. La colonne vertébrale de l'humanisme, y compris de l'humanisme chrétien, résider dans la conviction que l'on devient homme grâce à l'incorporation des savoirs. Il y a une humanisation par la connaissance. L'individualisme moderne postule à l'inverse que l'on est individu humain de plein exercice. On n'a pas à le devenir. Les savoirs peuvent être les suppléments utiles, mais ils ne sont plus constitutifs de notre statut. On assiste, au même moment, à un changement complet des modes d'accès au savoir. Fondamentalement, la connaissance requérait une dimension très personnelle d'intériorisation. C'était la tête bien faite, avec des figures du sage ou du savant. L'image contemporaine de la connaissance, incarnée par les nouvelles technologies de l'information, fait du savoir une donnée extérieure à l'homme, déposée dans des appareillages techniques dont il suffit d'apprendre le maniement. Le problème n'est plus d'avoir la tête bien pleine ni bien faite, mais de posséder les clés de ce savoir. L'idéal est d'apprendre à apprendre. » Voilà, un interview de Marcel Gaucher que vous pourrez retrouver sur le site internet de La Croix dans nos archives. J'ai fait très rapidement un peu un tour d'horizon des défis, mais ils sont très nombreux, qui se posent aujourd'hui à l'école.
Vraiment, merci beaucoup Bernard Gors pour ce tour de force quand même d'avoir réussi à nous présenter les grandes questions, les grands défis pour l'avenir du système. Je crois que effectivement là on mesure combien les choses aussi se sont liées les unes aux autres, à la fois les défis internes, celui de l'organisation et de la réforme, celui de la massification, celui de la définition du métier d'enseignant. Et puis ces défis externes qui peuvent paraître énormes et qui dépassent évidemment le seul cadre de l'école, celui de la ghettoïsation urbaine, de la formation des enseignants, la crise de l'autorité, de l'institution, et puis la disqualification du savoir et de la connaissance. Je crois que vous nous avez vraiment permis d'entrer un petit peu dans la complexité de la question. Alors en ayant ce tableau sous les yeux et à partir de votre expérience, Christiane Contoury, eh bien, comment percevez-vous un petit peu la situation actuelle et voilà, quels enjeux percevez-vous pour notre système éducatif et scolaire?
Voilà, c'est un exercice qui demande un peu d'adaptation, puisqu'une grande partie des thèmes ont été balayés. En même temps, je vais avoir une approche, disons, tout à fait complémentaire sur bien les thèmes et voilà, avec l'écho du terrain. Lorsque François Boëdec m'a transmis la question sur laquelle on allait débattre ce soir, notre système éducatif et scolaire est-il adapté aux enjeux d'aujourd'hui ? J'ai un peu frémi parce que la question est vaste et que je n'avais pas envie de répondre non. Je veux dire, étant sur le terrain, je n'avais pas envie de répondre non. Mais je ne peux pas dire oui. Donc voilà.
Une réponse jésuite.
Hein. Une réponse jésuite peut-être.
Mais surtout, si vous voulez, c'est aussi une réponse pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait... nous travaillons inlassablement sur le terrain à ce que ce système soit adapté et nous avons clairement conscience qu'il ne le sera jamais. Voilà. Alors, voilà comment je voudrais un petit peu décliner mon intervention sous forme un peu de témoignage aussi. Bon, dans un premier temps, je voudrais dire que le système essaie de s'adapter. Et je vais refaire, mais sans le répéter, un tout petit tableau, disons, de au moins des 10 dernières années, les grandes réformes, et peut-être vous décoder l'une ou l'autre, vous ne savez pas forcément derrière les sigles ce que ça veut dire sur le terrain. Donc, le système essaie de s'adapter. Il est rigide, mais en même temps, il est travaillé de l'intérieur, constamment, par des grands mouvements de transformation. Bon, alors je vais donc brièvement analyser ça. Ensuite, à partir du terrain, je vous dirai quelles sont les nouvelles missions confiées aux enseignants, l'évolution des pratiques que je constate, avec accueil et résistance. Car c'est pas forcément facile de, s'adapter constamment à des changements nouveaux. Enfin, et j'espère bien avoir le temps de le faire, je voudrais ouvrir quelques pistes sur le niveau du questionnement qui est le nôtre. À quel niveau situer les véritables enjeux, peut-être au-delà des débats politico-médiatiques et des vibrations affectives. Peut-être y a-t-il, d'ailleurs, ça a déjà été un petit peu évoqué, mais je pousserai un petit peu le pion un petit peu plus loin. Alors, d'abord, le système, enfin, je soutiens que le système essaie de s'adapter. Je ne remonterai pas très loin, mais... je remonterai à 10 ans, en 2001, Antoine Prost a été saisi de la mission de faire un rapport sur l'état des recherches en éducation. Et déjà, il a pu remarquer que des travaux fort intéressants étaient faits sur la réflexion sur notre système éducatif, mais que ces travaux étaient complètement éclatés, disparates. Qu'il n'y avait aucun, disons, lieu où, enfin, ça avait été suffisamment regroupé. Car toute la question, c'est la cohérence ou l'incohérence de toutes ces réformes qui semblent s'accumuler et donner un peu le tournis en donnant le sentiment que chaque ministre veut faire sa petite réforme. Bon. Quand on est en fait de l'intérieur du système, c'est-à-dire que concrètement, ces réformes, on a à les mettre en œuvre, et pas seulement à regarder, disons, les soucoupes volantes passer dans le ciel et se multiplier, mais que sur le terrain, il faut les mettre en œuvre. Et quand on y réfléchit, on s'aperçoit quand même, je vous rassure, qu'il y a des cohérences. Et qu'il y a en fait, dans nos ministères ou dans les lieux de recherche pédagogique, des équipes qui, depuis des années, réfléchissent, travaillent, et que si, par moment, il y a des ruptures dans un certain nombre de décisions ou de réformes, c'est bien souvent, justement, qu'on se donne l'autorisation de tester ou de vérifier l'efficacité de certains dispositifs et, éventuellement, à la lumière de l'expérimentation, de les modifier. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à la solde du ministre, je ne suis pas en train de vous défendre toutes les réformes, mais par rapport, disons, à la caricature qu'on en fait parfois dans l'opinion publique, je soutiens qu'il y a des cohérences plus, disons, profondes qu'il n'apparaît parfois. Et je vais vous en donner quelques exemples. En 2003, l'année 2003-2004, un grand débat sur l'école a eu lieu. Je me rappelle très bien avoir animé ou avoir participé à moult réunions avec des parents, avec des élèves, avec des professeurs, etc., sur quelle serait l'école de vos rêves, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'école, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et le pays a relativement bien joué le jeu, car il y a eu des dizaines de milliers de réunions partout. Un rapport, qui est un gros pavé illisible, mais dont l'introduction et la conclusion sont intéressantes, a rendu compte de ces débats, sous le titre « Les Français et leur école, miroir du débat ». Il en ressort, j'ai pas fait moi-même toute la synthèse, mais l'introduction était très bien faite, il en ressort 4 lignes de force. Il est intéressant de voir que c'était débattu donc en 2003 et qu'en fait, il y a une cohérence dans les décisions qui se sont prises après. 4 lignes de force. Une première, et donc ce que je vous dis, ça n'émanait pas seulement de professionnels de l'éducation, ça émanait des gens du terrain, c'est-à-dire aussi bien des enseignants que des parents, que des élèves. Les lycéens ont été largement associés à ces réflexions. Je me rappelle d'ailleurs la surprise d'un certain nombre d'adultes de la manière dont ont été regroupés les échos des lycéens, c'est que les jeunes souhaitaient travailler. On pouvait toujours avoir l'illusion que moins ils en font, mieux c'est. Pas du tout. Ils souhaitaient travailler. Ils souhaitaient qu'on les fasse travailler. Ils souhaitaient un lycée exigeant. Mais, et c'est un des premiers axes, qui sont ressortis de ces débats, ils souhaitaient, et les professeurs souhaitaient, et les parents souhaitaient, qu'on se préoccupe davantage de la maîtrise par les élèves des savoirs qu'on leur transmettait. Autrement dit, pas seulement transmettre, mais faire maîtriser. Ce qui, quand une très petite proportion de jeunes et de milieux plutôt porteurs faisaient des études, allait de soi, et ce qui n'allait plus de soi. Voilà. Donc, cet effort pour aider les jeunes à maîtriser les savoirs qu'on leur transmettait. Deuxième axe, qui paraît relativement une évidence, mais qui, mission confiée aux enseignants, n'était pas si évident que ça, c'est que finalement, l'école, le milieu scolaire, se préoccupe non seulement d'instruire, mais d'éduquer, et s'investissent, et que les enseignants s'investissent dans le vivre ensemble, comme on a dit largement, cette expression a été beaucoup dit, dans le vivre ensemble. Troisième axe qui ressort de ces débats, que les parents se sentent davantage engagés dans la réussite scolaire de leurs enfants, en partenariat avec l'école. La place des parents. Et quatrième axe, que l'école de la nation soit vraiment l'école de la nation, c'est-à-dire que ses objectifs soient davantage lisibles et compréhensibles par l'opinion publique. À la suite de ça, à la suite de différents travaux, comme l'a évoqué Bernard Gorce, en 2005, la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a été votée. Et il en est, elle comporte un certain nombre d'éléments, mais il y a deux décisions majeures qui ont été prises dans cette loi et qui sont en train d'être mises en œuvre et qui, l'air de rien, provoquent des changements assez profonds. D'une part, la définition d'un socle commun des connaissances et des compétences que tous les élèves doivent maîtriser. Donc actuellement, il a été rédigé, il est balisé pour l'école et le collège. Donc, ça correspond à cette demande de lisibilité par l'opinion publique. Ceci dit, il n'est pas d'une lisibilité facile non plus l'accès, enfin, pour cet avoir. Et deuxième grand axe, donc, un élargissement de la mission confiée aux enseignants. Et en particulier, ça s'accompagnait du passage, des IUFM aux universités et de la transformation, donc de la professionnalisation des enseignants, c'est un vaste, vaste sujet. Alors, je voudrais peut-être dire un petit mot du socle commun, parce qu'en fait, c'est une expression qui semble aller de soi, on dit, bon, c'est les fondements, les fondamentaux. C'est pas si simple. Et en particulier, quand on a concrètement à mobiliser des enseignants et à accompagner des équipes pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la validation du socle commun des connaissances et compétences exigibles à la fin d'une classe d'âge, c'est pas simple du tout. Ceci dit, c'est une décision, et une décision éthique de la part du gouvernement, qui, la phrase suivante, la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences, etc., etc. Bon, il y a un engagement. Quand on dit, il faut au moins qu'ils puissent faire ça, il y a un engagement, voilà. Et je pense que là, c'est important de se le redire. Il y a une décision qui est d'ordre éthique et pas seulement économique. Ceci dit, la période où ça a été travaillé correspond à une période où, au niveau de l'Europe, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne ont travaillé sur ce que pourraient être les compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Avec cette idée qui est très importante, que finalement, c'est tout au long de la vie qu'on se forme et qu'on n'est pas censé être un produit fini quand on sort du collège ou quand on sort du lycée. Je voudrais préciser quelque chose. Le socle commun, qui se présente sous la forme de 4 pages A4, hein, c'est un petit dossier présentant ce qu'on appelle le livret de compétences pour les collégiens, donc qui a été expérimenté l'année dernière et qui cette année doit être validé en troisième et fait partie de l'acquisition du brevet des collèges. Il se décline en 3 mots. Les compétences qui doivent être acquises se conjuguent en 3 mots. Il y a des connaissances à acquérir, des connaissances fondamentales pour notre temps à acquérir. Il y a des capacités pour les mettre en œuvre, et il y a des attitudes indispensables pour vivre au collège et au lycée, mais qui seront indispensables tout au long de la vie. En fait, c'est très ambitieux. On dit le socle commun nivelle par le bas, lisez-le attentivement, vous verrez que c'est très ambitieux, et que pour chacune des 7 compétences, je vous les rappelle, je ne vais pas être trop longue non plus, mais je pense que c'est important de les avoir dans le paysage. Il y en a 7. La maîtrise de la langue française, lire, écrire, s'exprimer à l'oral. Deuxièmement, la pratique d'une langue étrangère, avec un niveau de certification européen. Troisièmement, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technique. Quatrièmement, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, on appelle le B2I, brevet informatique Internet. Cinquièmement, la culture humaniste qui donne des repères historiques, géographiques, littéraires, artistiques. Et puis 2 domaines qui sont d'un champ qui est moins lié aux disciplines, mais qui est davantage lié, disons, au comportement et aux attitudes face au savoir et dans la vie collective. 6e, les compétences sociales et civiques, fondement de la vie civique, comportement responsable. Et 7e, l'autonomie et l'initiative, connaître les métiers, les formations, mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques, faire preuve d'initiative. Vaste chantier. Ce qui est intéressant, disons, je défends le socle commun, bien que la mise en œuvre soit vraiment extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile parce que elle doit être validée d'une manière binaire. C'est-à-dire que pour chacune des compétences, l'enseignant doit pouvoir noter pour chaque élève c'est acquis, oui ou non. Or, on a toujours envie de mettre un curseur pour indiquer à peu près comment. Parce que, je vous donne quelques exemples, une compétence par exemple qui est être capable de situer une œuvre d'art dans son contexte historique et culturel. C'est pas oui, non. Ça va dépendre comment on a travaillé un sujet, comment on a travaillé un thème, etc. Une autre entrée, c'est être capable de prendre la parole en public en s'adaptant à son public. Bon, je sais pas si je sais le faire, mais enfin, je veux dire, c'est pas évident qu'un collégien sache le faire dans toutes les circonstances. Oui, non. Il y a être capable de prendre des initiatives. Lesquelles? Oui, non. Etc. Toutes sortes de choses. Donc, c'est en fait, pour les professeurs, l'année dernière, c'était expérimental. On a expérimenté, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi. C'est pas du tout facile, parce que dire oui, non, on a toujours envie de dire, à la limite, tel de nos jeunes gens, il sait oui au mois de janvier, et puis au mois de mars, ça sera non, parce qu'en fait, voilà, ça dépendra de ce qu'il a à faire. Donc, si vous voulez, il y a un énorme travail de mise en œuvre pour, effectivement, se dire, il ne s'agit pas de valider, il s'agit d'entraîner ses compétences. Par exemple, je prends un exemple. Un des items était, en français, en maîtrise de la langue, être capable de lire un texte à voix haute d'une manière intelligible. Beaucoup de jeunes, on voit ça au niveau du bac, ne savent pas bien lire à voix haute, de manière intelligible et vivantement. Donc un professeur de français de troisième me dit, mais moi, mes élèves ne savent pas faire. Et je lui dis, bah, écoute mon cher, il faut qu'ils sachent le faire. Hein? C'est-à-dire, le truc, c'est pas de constater, voilà, la logique de l'évaluation de socle commun, c'est pas de constater, c'est de se dire à quoi je vais entraîner mes élèves cette année. Et donc, pas seulement des savoirs et des connaissances qu'on peut vérifier avec des interrogations écrites, mais des compétences, des manières de se positionner, des comportements qu'on va pouvoir reconnaître. Donc, à quoi je les entraîne? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la modalité d'évaluation du socle commun, bon, ce côté binaire est artificiel, mais en même temps, les professeurs peuvent construire au long de l'année un certain nombre de procédures d'évaluation qui capitalisent à la fin de l'année pour dire, bah, finalement, c'est plutôt oui ou plutôt non. Et puis bon. Ce qui est intéressant, c'est que ceci influe légèrement, et je pense que ça aura des conséquences importantes dans l'avenir, les modalités d'évaluation. On sait qu'un des problèmes en France, c'est ce côté, l'évaluation décimale, entre 0 et 20, obligatoirement, nous mesurons ce qui manque. N'importe quelle note qu'on mette qui est sur 20 mesure l'écart entre ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'on a fait. Donc c'est toujours négatif. Même si c'est 18, il manque 2 points. Voilà. La validation du socle commun devrait permettre, et je crois qu'il y a là quelque chose qui n'est pas du tout facile à mettre en œuvre, mais qui est un horizon important à se donner, de reconnaître et de valider et de valoriser des quantités de postures, d'attitudes, de comportements, d'initiatives, de savoir-faire que les élèves, en fait, mettent en œuvre. Et qui sont au service des savoirs. C'est pas du tout contradictoire. Et qui sont au service des savoirs. Voilà. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais je ne veux pas m'attarder trop. Il y a beaucoup d'autres choses à dire encore. Voilà. En tout cas, disons que c'est un chantier. C'est un grand chantier. Et qui amène les enseignants à déborder de l'enseignement de leur stricte discipline et du contenu pour s'intéresser à des savoir-faire ou à des attitudes. Valoriser l'élève qui a une certaine curiosité d'esprit, valoriser l'élève qui prend des initiatives, valoriser l'élève qui est capable de creuser une question, qui est capable de faire un travail personnel sur un domaine ou un autre, etc. L'entraînement à la validation des compétences du socle est accompagné d'un certain nombre d'heures d'accompagnement éducatif au collège pour permettre aux enseignants un contact rapproché avec les élèves et permettre justement de repérer ce qui peut manquer dans ces compétences. La réforme du lycée, nous sommes rentrée 2010, le grand défi de cette rentrée, c'est la réforme du lycée. Bon, elle n'est pas copernicienne, hein, voilà, c'est ça, c'est peut-être pour ça finalement qu'elle a fini par passer, voilà. Mais elle comporte, vous le savez sans doute, trois grands axes. Mieux aider à l'orientation des lycéens, avec l'introduction en particulier des enseignements d'exploration en seconde. On pourra développer plus, mais je ne veux pas trop le faire. Deuxièmement, mieux accompagner les lycéens dans leur travail avec ces heures d'accompagnement personnalisées. Mais là aussi, c'était déjà travaillé puisqu'il y avait des heures d'aide individualisées les années précédentes. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais ça demande pour les enseignants quand même une vraie réflexion et une posture un peu différente. Et puis, le troisième pôle, c'est mieux s'adapter à son époque, en particulier avec le développement des langues, le développement de l'accès à la culture au sens varié du terme, et puis la responsabilisation. Et en particulier qu'il puisse être reconnu au niveau du lycée que des élèves qui sont capables de s'engager, sont capables de prendre des responsabilités, soient reconnus et valorisés. Pour les enseignants, depuis quelques années, ce sont de nouvelles missions qui sont confiées. J'en énumère quelques-unes transversales au programme, qui, directive ministérielle à chaque rentrée scolaire depuis quelques années, traversent tout le système scolaire. Invitation à développer l'éducation à l'environnement et au développement durable. Invitation à se soucier de l'orientation et de l'accompagnement de l'orientation depuis les classes de collège, découvrir les métiers, découvrir les champs de formation. Éducation à la santé et à la sécurité, puisqu'il est même question que le test des premiers secours, la capacité des premiers secours fasse partie du brevet des collèges, etc. À cette rentrée 2010, la circulaire de rentrée indique 5 principaux axes directeurs. Maîtriser les fondamentaux, mais aussi développer l'éducation artistique et culturelle, personnaliser les parcours à l'intérieur du cycle unique, responsabiliser les équipes et les élèves à tout niveau, accélérer le développement du numérique, renforcer la politique de la santé et la pratique du sport, tous les niveaux. Donc, c'est vrai que les enseignants ont le sentiment actuellement que, à chaque rentrée, ils reçoivent les injonctions de s'intéresser de manière transversale, quelle que soit leur discipline, à un nouveau champ. Et c'est vrai que là, il peut y avoir, ça révèle, disons, une attente par rapport à l'école de tout ce que, en fait, la société devrait pouvoir éduquer. Je veux dire, ça paraît relativement, assez lourd. Et pourtant, les gens s'y mettent. Et je voudrais témoigner de ce que je vois autour de moi, non pas de manière idéale, mais je constate au jour le jour, à la semaine, aux années, etc., que le travail des enseignants, la manière dont ils travaillent, s'est en fait beaucoup modifié. Et donc, on dit que le système est rigide, mais en fait, bien sûr, c'est la complexité du système et puis les examens restent des examens de fin de parcours, mais en fait, quand vous voyez les salles de professeurs, quand vous voyez ce qui se passe dans les salles de classe, beaucoup de choses ont changé. Je voudrais en énumérer quelques-unes. Oui, je m'arrête. Bon, j'énumère sans développer. Puis si vous ne comprenez pas, tant pis. Bon. Il y a de plus en plus de professeurs qui travaillent en interdisciplinaire. Moi, je vois ça, les professeurs, les gens par groupe de 2 ou 3 de disciplines différentes, parce qu'ils ont des projets à mener. Beaucoup de professeurs maintenant ont intégré les outils de communication numérique dans leur enseignement. Et ça change beaucoup de choses. Ça change leur posture avec les élèves et ça change l'animation des cours. Les formes variées d'accompagnement, c'est-à-dire de prendre des élèves par tout petits groupes, se sont multipliées. Donc, la perception par les enseignants de la manière dont travaillent les élèves. Les pratiques d'évaluation ont aussi pas mal changé. On a beaucoup caricaturé le baccalauréat comme étant un examen final couperet, mais il y a déjà un certain nombre de disciplines qui sont évaluées en contrôle continu en cours de formation. Ce qui est sûr, alors je voudrais mentionner maintenant quelques points d'alerte. Je m'arrête vite. La multiplication des grilles d'évaluation, les dispositifs en ligne, les injonctions de toutes sortes ne mobilisent pas les acteurs. D'ailleurs, au passage, je voudrais alerter sur le fait qu'il faudrait peut-être bémoliser un petit peu les évaluations internationales, car dans beaucoup de pays, les évaluations se font par QCM, avec des modes de calcul quantitatifs qui ne sont pas du tout la tradition française. Bon, alors, je saute pour aller à ma conclusion parce que j'y tiens. Alors, je voudrais dire à quel niveau je pense qu'il faudrait situer les véritables enjeux. Berlin Gors a cité le travail de Marcel Gaucher. Moi, un ouvrage comme « Les conditions de l'éducation » est une source de réflexion. J'ai aussi été très nourrie par la réflexion de Catherine Chalier dans un ouvrage qui s'appelle « Transmettre de génération en génération ». Alors, je mentionne 2-3 questions qui sont, à mon avis, des points d'enjeu importants. Une première chose, c'est la conviction que informer n'est pas transmettre. Informer n'est pas transmettre. On croit qu'on donne aux jeunes toutes les possibilités de se former en multipliant les sites en ligne et en les rendant habiles avec les ordinateurs. Or, ce n'est pas ça la transmission. Catherine Chalier en parle admirablement. Transmettre, c'est toujours parler. Il nous faut, et c'est très important, avoir le sens de la parole. Que des enseignants parlent avec leurs élèves, que des parents parlent avec leurs enfants, que nous aidions les jeunes à se parler les uns aux autres. Et là, il peut y avoir une grande illusion de penser qu'on a résolu les problèmes quand on a tout mis en ligne. Par exemple, l'information sur l'orientation, ce n'est pas seulement un site internet, si magique qu'il soit, c'est prendre le temps de parler avec un jeune, relire sa vie, voir ses goûts, ce qu'il réussit, ce qu'il ne réussit pas. Enfin, je ne veux pas dire ça, vous êtes tous parents ou grands-parents et vous savez ça. Voilà. Il faut continuer à leur parler. Quand on communique aux enseignants un malaise considérable en disant « mais finalement, vous n'êtes plus les seuls détenteurs du savoir », bien sûr. Tout est sur Internet, bien sûr. Mais quels sont les adolescents qui sont capables de s'auto-former tout seuls avec leur ordinateur ? Assez rapidement, ils vont dévier vers les jeux, les consoles ou le tchatch avec les copains. La culture uniquement par Internet, c'est à la fois magnifique et en même temps, s'il n'y a pas des adultes qui, comme des grands frères, parlent, aident, donnent le goût, donnent l'envie, eh bien, on retombe. Il y a besoin de paroles. La transmission, c'est autre chose que l'information. Deuxième conviction, école et famille, il faut travailler ensemble. Je dirais même société et école, il faut travailler ensemble. À vrai dire, je pense qu'il faudrait que les familles et toute la société encouragent l'école. Et les messages médiatiques négatifs, répétant, matraquant inlassablement que l'école est en échec, ne facilitent pas le travail des enseignants et des chefs d'établissement et continue à créer de manière corrosive un doute. Bon, il est sûr, on en a parlé, qu'il y a une perte du sens du savoir, mais il faudrait s'interroger pourquoi. Est-ce que les parents ne s'intéressent qu'aux résultats? Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment aussi au contenu des savoirs et de la culture? En tout cas, les rapports école-famille ont besoin inlassablement de s'améliorer. Dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les écoles, où il y a une politique d'ouverture aux familles, de dialogue avec les familles, il y a toujours des conséquences positives sur le devenir des enfants. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est que il y a un lien entre la mémoire et l'espoir. Catherine Chalier en parle très bien. L'apprentissage des procédures, la reproduction des modèles, la maîtrise des outils ne suffisent pas à donner le goût de vivre. Il ne faut pas seulement préparer les jeunes à être efficaces et opérationnels, il faut nourrir en eux des attentes plus profondes, même s'ils sont d'un niveau culturel peu élevé. Les aider à enraciner leur mémoire et ouvrir avec eux un avenir d'espérance. C'est sûr qu'il n'y a rien de tel pour démobiliser des jeunes dans leurs apprentissages que de leur répéter inlassablement que l'avenir est bouché et que les problèmes de demain sont trop lourds. L'ignorance est une grande pauvreté. Or, il ne faut pas renoncer à transmettre la culture humaniste, la culture religieuse et même la culture scientifique. Dans les moments de grande tourmente de l'histoire, c'est dans le trésor de leur héritage que les hommes ont trouvé la force de tenir. L'avenir ne peut être porteur que s'il fait appel à l'intelligence et à la générosité, non à la peur et aux soucis sécuritaires. Je plaide donc sur une recherche du côté des ressources, de l'éthique et de la spiritualité pour donner du souffle à nos établissements scolaires.
Merci beaucoup, Christiane Contoury, de votre parole qui nous aide à sortir d'un regard uniquement pessimiste sur la situation actuelle, sur le système actuel, un système qui, vous nous l'avez dit, c'était important, je crois, à l'entendre, que nous puissions l'entendre, un système qui essaie de s'adapter et qu'il y a des cohérences, un certain nombre de réformes et de réflexions actuelles. C'était notamment bien mis en valeur, je trouve, sur la question du socle commun. Et puis merci aussi de nous avoir partagé quelques-unes de vos convictions, la conviction qu'informer n'est pas transmettre, celle que école et famille, il faut absolument travailler ensemble, société et école, il faut absolument travailler ensemble, et bien sûr ce lien entre la mémoire et l'espoir qui ouvre à une autre dimension absolument indispensable pour imaginer l'avenir. Alors des convictions qui nous aident bien sûr à réfléchir et qui nous mettent déjà peut-être dans le débat pour partager ensemble pour encore, disons, quelques minutes quand même, quelques questions ou quelques convictions. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, et je vois déjà une question, un doigt qui se lève. Voilà, on va prendre peut-être deux ou trois questions ou convictions. N'hésitez pas à bien parler dans le micro. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, en fait, je voulais revenir en fait à cette question justement de spiritualité là que vous avez conclu à la fin du débat, enfin de votre présentation, et savoir en fait. Enfin, moi, j'avais une question qui me taraudait un peu l'esprit par rapport aux élèves qui viennent dans une école. À qui des fois on bourre le crâne justement de plein de matières bon différentes qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais qui en même temps ne permettent pas forcément justement à l'élève d'avoir du recul par rapport à ces matières-là et d'avoir, je dirais, un esprit critique sur l'accumulation de ce savoir. Donc la question que je me pose, c'est de savoir en fait s'il n'est pas je me demande en fait s'il n'est pas nécessaire, avant d'engranger tous ces savoirs mathématiques, etc., déjà d'avoir une première approche de l'apprentissage en apprenant à apprendre, justement, c'est-à-dire avoir un recul sur ces matières et je dirais voir le monde avec justement une manière aussi de voir le monde, de voir les philosophies, de comprendre les idéologies, de comprendre également d'où ils viennent, de comprendre leur identité, d'étudier les religions, justement.
Très bien, merci.
Voilà,
oui.
D'accord. Avant d'avoir...
Merci beaucoup. On va prendre peut-être s'il y a d'autres questions, interventions. Oui, il y en a une de l'autre côté. Voilà, on fait passer le micro jusqu'au bout. Et puis, autant que cela est possible, une question brève.
Oui, bonsoir.
Oui, parlez bien.
Moi, je m'interroge parce qu'on a beaucoup parlé ce soir du changement des missions des enseignants. Et moi, je suis petite fille et enseignante moi-même. Et je crois qu'effectivement, on voit au travers des générations un métier qui change énormément. Et actuellement, on est en train quand même de supprimer des heures de formation à tire-larigot pour les nouveaux enseignants. Et je ne vois pas comment un nouvel enseignant, si on ne lui laisse pas la possibilité de prendre du recul sur toutes les nouvelles missions qu'on lui propose, peut s'emparer justement des nouvelles missions. Je crois que c'est un vrai problème actuel, c'est qu'on voit arriver dans les établissements tout plein de jeunes enseignants, plein de bonne volonté, désireux de bien faire, et qui reproduisent les modèles qu'ils ont vécu eux-mêmes il y a 20 ans quand ils ont fait leurs études, et sans leur donner les moyens de s'emparer de tout ça. Alors moi, je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'aller à l'IUFM et de prendre du recul pour pouvoir petitement s'emparer de ces nouvelles réformes. Je ne vois pas comment les nouveaux enseignants peuvent le faire.
Merci. Peut-être une troisième intervention avant de redonner la parole à nos invités. S'il y en a une tout au fond. tout au fond. Levez bien le doigt pour qu'on vous voit. Voilà.
Alors, je vais profiter d'être le porteur du micro pour poser une question.
Ah bah oui, c'est habile, mais c'est bien vu, oui. J'aurais fait pareil.
Juste une question. Est-ce que la disqualification du savoir n'est-elle pas une superbe opportunité pour changer tout le système? Voilà, c'est aujourd'hui, comme les enseignants doivent remettre en cause, ils sont plus porteurs de tout le savoir. Ils sont obligés de se mettre dans une logique d'apprendre à apprendre et pas uniquement de faire de l'acquisition du savoir. Est-ce que c'est pas une bonne opportunité?
Merci. Et on prend la dernière question.
Alors, j'ai été stagiaire du CAPES dans ma jeunesse. Et en fait, ce que j'ai remarqué pendant cette expérience, qui a été courte, c'est que on est livré à une extrême solitude dans cette expérience, enfin, j'étais dans le public. Et je voudrais savoir si ça continue comme ça et s'il n'y a pas davantage si c'est pas un peu plus noué dans les équipes de professeurs. Bon, madame m'a parlé du privé, mais dans le public, qu'est-ce qu'il en est, quoi? Voilà.
Merci. Alors on va s'arrêter là pour c'est la question de la, si j'ai bien compris, un peu de la solitude aussi de l'enseignant dans son acte dans sa mission. Alors les questions se touchent d'ailleurs un peu les unes aux autres. Peut-être qu'on peut commencer, Christiane Conturi.
Je peux donner quelques amorces de réaction, mais je pense que Bernard Gorce verra lui-même. Alors par rapport à la première intervention, j'étais sensible à cette première intervention. Je pense que elle touche la question de l'éducation globale. Alors, c'est sûr que l'enseignement privé catholique a plus de liberté pour avoir un projet éducatif qui touche la globalité de la personne. C'est-à-dire, ce que vous dites, en fait, ça veut dire on ne peut pas accumuler comme ça des apprentissages dans des domaines différents si on n'aide pas les enfants à se poser, s'intérioriser, réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et aussi leur communiquer, disons, par le biais de transmissions religieuses ou philosophiques, disons, un peu le sens de l'existence. Donc ça, je crois que ce que vous dites là, ça touche vraiment un grand enjeu éducatif, qui est la globalisation des valeurs qu'on transmet par l'éducation. Voilà. Et qu'effectivement, un établissement scolaire, le pilotage d'un établissement scolaire, et en particulier quand il y a un projet éducatif cohérent, comporte, disons, cette éducation à l'intériorité. Par exemple, que dans l'emploi du temps des élèves, il y ait des temps d'études silencieux, où ils puissent s'approprier personnellement, paisiblement, les savoirs, et pas entendre parler au-dessus de leur tête toute la journée, mais évidemment se poser. D'ailleurs, on travaille avec des enseignants actuellement sur les pauses silence à l'intérieur des cours, qui permet justement les temps d'évocation, les temps d'intériorisation, les temps de renouer avec ce qui a été dit la fois d'avant, faire les liens, etc., qui font qu'on n'accumule pas des choses, mais on les intériorise. Bon. Et je pense qu'effectivement, un certain nombre d'activités qui sont proposées dans les établissements qui ont un projet éducatif, avec la venue de témoins, avec, pour ceux qui le souhaitent, une initiation ou un approfondissement religieux, ou des temps de réflexion un peu larges et un peu gratuits, permettent justement ces espaces de vie. Hein? Donc ce que vous dites touche vraiment en plein ce que vous êtes, un projet éducatif cohérent. Voilà. Pour la seconde intervention, j'ai envie de dire quelque chose, enfin, sous deux formes. Premièrement, c'est vrai que, enfin, nous sommes dans une période, entre guillemets, de disette économique, et donc les restrictions de budget sont faites un peu partout. Donc là, c'est sûr que la formation des enseignants, de tous côtés, on critique le fait que cette année sasse un petit peu après le concours de stage où les jeunes enseignants n'avaient que 6 heures ou 7 heures de cours et étaient suivis par des tuteurs et continuaient à avoir des formations en UFM, était intéressante. Ceci dit, moi, j'ai, à vrai dire, aussi, accueillant et accompagnant les enseignants, beaucoup entendu critiquer les cours théoriques qu'ils avaient quelquefois dans ces années-là et l'idée que c'était sur le terrain qu'ils se formaient. Bon. C'est vrai que nous allons vers une perspective qui est un défi et qui peut d'ailleurs créer une grande inégalité entre les établissements, c'est-à-dire que l'établissement scolaire soit un établissement formateur, que l'établissement lui-même soit un lieu de formation. C'est un des thèmes actuellement développés, c'est-à-dire que alors c'est une mission de plus hein, pour les chefs d'établissement ou les responsables pédagogiques. Bon, moi, j'ai constamment, disons, à accompagner des jeunes enseignants dans mon établissement et à bon. Mais c'est l'idée que les enseignants plus anciens encadrent les plus jeunes. C'est l'idée que des réunions par niveau, etc. C'est toute une mission donnée aux établissements d'être eux-mêmes lieu de formation. Et les jeunes enseignants disent souvent, enfin dire que c'est à l'occasion de leur stage et de la confrontation avec leur père,
et leurs aînés qu'ils ont appris le plus leur métier. Mais concrètement, ça veut dire un engagement de toute la communauté éducative à prendre réellement en charge ces jeunes collègues, enseignants ou cadres éducatifs. Et ça, c'est un vaste sujet. Et c'est là encore qu'on touche l'engagement éthique et, je dirais, spirituel de tous ceux qui sont en charge d'éducation.
Bernard.
Oui, alors, très très brièvement là aussi, bien entendu, dans l'enseignement public, il n'est pas question d'une dimension spirituelle, même si chacun peut la vivre intérieurement, mais pas en tout cas abordée en tant que telle. Simplement pour donner un sens au savoir et avoir une autre approche. Moi, enfin, de ce que j'ai vu à la fois en tant que journaliste et aussi en tant que père d'enfants scolarisés, et j'ai vu aussi des amis qui sont enseignants qui en témoignent, je pense beaucoup que l'école aurait à trouver aussi un petit peu d'autres modes que l'enseignement assis sur une chaise devant la maître. Enfin, quand on voit l'impact extraordinaire qu'on est sorti les voyages scolaires, enfin, mon fils revient là d'un séjour à Rome, il en revient avec des yeux totalement étonnés, il a plus appris en une semaine sur l'art que quand une année de cours de dessin ou même de musique. Enfin, et une amie qui est enseignante, qui emmène des petits enfants de vraiment de milieux très très défavorisés avec sa classe, dit que c'est ça qui pose l'année, enfin c'est ça change tout quand on peut le faire. Bon, je pense simplement que pour effectivement donner un sens au savoir, il faudrait pouvoir inventer sans doute dans l'éducation, bien qu'on n'aura pas les moyens de faire partir tout le monde tous les ans en voyage, mais enfin trouver ces autres moments, ces autres lieux à la fois de vie et de relation aux connaissances. Quant à la formation, là aussi très brièvement, faut se rappeler qu'on sort d'années très très dures de polémiques sur les IUFM. Avec les premiers critiques sur les IUFM, c'était quand même les enseignants. Enfin, moi j'ai découvert ça quand j'ai pris la rubrique éducation, où on avait quand même des témoignages extrêmement cinglants d'enseignants qui disaient tout le mal qu'ils pensaient des IUFM. Alors je veux pas du tout moi les accuser, mais c'est vrai qu'on vient de là pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui on essaye de trouver d'autres façons de former. Bon, maintenant, c'est vrai que moi, je suis un peu sceptique et cette question du recrutement, de la formation et des missions des enseignants vaudrait un débat en soi. Claude Tello disait simplement que dans les années qui viennent, il va y avoir énormément de départs à la retraite et que sans doute les 10-15 ans qui viennent sont une période charnière dont il faut savoir profiter pour repenser ce recrutement et cette formation des enseignants, parce que là, il y a une opportunité historique très importante. Je pense pas qu'on ait qu'on ait pris le problème en tout cas à bras le corps.
Merci. Peut-être une dernière question, conviction. Oui, madame, qui attendez, le micro arrive et puis on terminera par là. Voilà.
Oui, monsieur a parlé de la ghettoïsation. Madame, dans votre conclusion, vous avez dans le deuxième point de votre conclusion, école et famille, il faut travailler ensemble. Ma question est, qu'en est-il des différentes origines, des différentes cultures, des différents types d'élèves qui se trouvent maintenant dans les classes, sans parler des différences de religion, que vous n'avez pas évoqué, ce peut-être pas un problème, peut-être est-ce un enrichissement, mais comment le gérer?
Oui. Juste un mot, effectivement, pour dire que c'est une
question facile. Hein.
C'est vraiment une excellente question que j'avais envie d'aborder, que je n'ai pas abordé faute de temps. Mais c'est vrai que le défi culturel est gigantesque et il est d'autant plus compliqué qu'il y a une tradition française quand même de l'école très républicaine, très laïque, où il y a un déni. Alors pour le meilleur, mais aussi pour le pire, un déni justement des identités culturelles. On l'a vu quand même au moment du débat sur le voile. Enfin, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont très attachés à ce que quand l'élève entre dans l'établissement, il se dépouille de son appartenance, de sa culture, de ses origines pour être là en tant qu'élève. Et on vient de toute cette tradition là aussi, ce qui fait que ça ne rend pas simple en France, je pense effectivement, la capacité de l'école à prendre en compte le multiculturalisme aujourd'hui.
Merci. Alors écoutez, là vous venez me chercher sur un point qui me tient particulièrement à cœur, donc je vais faire le petit numéro. Écoutez, moi j'ai la chance d'être dans un établissement scolaire qui a un projet éducatif. Ça ne veut pas dire qu'on réussit ce qu'on fait. Entre l'idéal et la réalité, il y a tout un monde. Mais cette question des différences culturelles et religieuses est absolument au cœur de notre projet d'établissement. Donc je dis d'un mot ce qu'on essaie de faire, parce qu'en fait c'est quelque chose qui peut faire réfléchir. Voilà. Donc je suis donc dans un établissement qui est dans l'est parisien, donc c'est pas une grande banlieue à grande difficulté, mais c'est un brassage, vraiment un grand brassage culturel et religieux. Alors l'idée c'est quand même que quand les familles, c'est vrai qu'on a la chance dans l'enseignement privé d'avoir toujours un dialogue fondateur avec les familles, donc on demande à ces familles disons une ouverture, donc leur dire qu'ils sont respectés dans leur diversité mais qu'ils sont prêts à vivre aussi avec d'autres enfants, avec d'autres jeunes. À chaque niveau où les élèves arrivent nouveaux, je prends par exemple les secondes, où il y a en seconde sur presque 190-200 jeunes, la moitié sont nouveaux, un grand travail est fait par la responsable de niveau qui est dans cette salle pour que les jeunes prennent le temps pendant un certain temps de se présenter. Chacun devant les autres dit, prend le temps, semaine après semaine, comme une sorte de récit, de dire un petit peu qui il est, sa famille, etc., éventuellement d'apporter un objet symbolique, etc., mais d'être reconnu par les autres comme étant de telle origine, avec les croisements, les métissages et qui caractérisent une grande ville comme Paris, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les croisements. Mais déjà d'exister devant les autres et derrière les tenues lycéenne tout à fait standardisée, de s'apercevoir la variété des origines. Par ailleurs, nous accueillons dans l'établissement, disons, des formateurs de différentes religions. Donc, l'établissement est animé par une communauté chrétienne qui fait des formations pour les jeunes chrétiens, mais également, il y a un intervenant juif qui fait une formation au judaïsme pour les jeunes de tradition juive et un intervenant musulman qui fait une formation à l'islam pour les jeunes de tradition musulmane. Et une fois par trimestre, on propose une rencontre interreligieuse sur un thème que les uns et les autres ont travaillé. Il y a un échange. Et environ 60-70 lycéens se retrouvent à peu près à parité, une fois par trimestre, pour échanger ensemble sur le travail qu'ils ont fait. Donc l'idée, c'est qu'en fait, l'éducation à la tolérance, disons, elle peut être aiguillonnée non pas, par le fait non pas de nier les différences, mais en fait de les accueillir paisiblement dans la reconnaissance réciproque. Alors, je ne dis pas que ceci soit facile, ça demande, en fait, ça pourrait tout de suite s'arrêter si on ne se donnait pas le mal de le faire exister, mais en même temps, c'est tout un regard sur l'existence apaisée et qui fait que des jeunes grandissent ensemble, différents, mais pas indifférents les uns aux autres. Donc voilà, c'est un défi éducatif, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à partager parce que des expériences de ce type commencent à se multiplier.
Merci beaucoup, Christiane Conturi et Bernard Gosse. Effectivement, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Ce n'était que ce soir que quelques petits éléments.